Moi, je prends un peu du Moussaï au Café Oriental. J'ai repris totalement ce qui se
passe. Moi, j'ai essayé de vous manier au Café Oriental. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, c'est-à-dire mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix qui vous accorde la parole. Le gouvernement congolais a décidé de la transformation du fonds de promotion de l'industrie FPI en banque d'investissement industriel. Cette décision est l'une des 28 mesures urgentes du gouvernement publiées le 25 janvier dernier pour redresser l'économie congolaise. Le fonds de promotion pour l'industrie FPI comme banque de financement et d'investissement devra proposer désormais ses services exclusivement aux grandes entreprises, aux institutions financières et aux institutions publiques. Certains observateurs estiment que cette décision est très bonne au regard des cas de détournement des fonds enregistrés dans cette entreprise. Notre opinion pense plutôt que la mise en route de cette décision, de la liquidation à la transformation, aura un impact sur l'économie congolaise. Qu'en pensez-vous? Vous pouvez intervenir dans cette émission en nous envoyant vos messages sur notre page Facebook ou bien nous rejoignant donc à l'adresse pa@radiocapi.net ou encore nous appeler au 081-890-6315. Julie Pesabongonda est au standard, Hippolyte Kapanga à la mise en onde, Piro et la Mégie à la réalisation de ce programme, Jirnougembo Cordon est présente ce programme sous la supervision de Martin Sebou-Jangé. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguembo.
Nous avons le premier auditeur en ligne qui va ouvrir les débats. Rizka est à Kinshasa. Rizka, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Voilà, Rizka, vous connaissez bien la thématique. Vous nous avez envoyé un message sur notre page Facebook pour dire que pour vous, ce n'est pas une très bonne mesure.
Oui, personnellement, je ne connais pas toutes les 28 mesures, mais la mesure dont nous parlons ici, dans cette thématique, me laisse un peu perplexe. Bon, j'ai trois points que je vais développer. Tenez par exemple. Je vois très mal comment une institution financière va se muer en institution industrielle à moins de changer sa raison sociale. Deuxièmement, une institution publique peut facilement être rubriquée dans le budget national ou provincial, selon les cas, au lieu d'attendre un financement qu'elle aura à concourir avec d'autres institutions, tout en se soumettant aux règles de préférence. Troisièmement, les grandes entreprises aujourd'hui sont dirigées par des personnalités triées d'après leur couleur politique. Ce qui fait que ces personnalités, en cas de mégestion de ces fonds, ne seront ni poursuivies ni inquiétées comme c'est le cas avec ceux qui ont reçu des financements du FCI et qui les ont destinés à d'autres fins. Cette transformation, d'après moi, risque de l'être que du point de vue terminologie. Dans tout ça, moi j'estime que seul le suivi et le bannissement de l'impunité s'avèrent nécessaires.
Alors, est-ce que vous estimez, comme les autres, que c'est une façon de créer une diversion, parce qu'il y a des cas de détournement qui ont été dénoncés, il faudrait d'abord qu'on puisse restituer ou rendre compte à la population en ce qui concerne des sommes qui ont été déjà recouvrées.
Justement, c'est le terme en question, la diversion, puisqu'il y a des gens qui sont reconnus, qui ont reçu les fonds du FPI. Ils sont reconnus, mais il y a on ne les inquiète pas, on ne les poursuit pas. Et on veut transformer de termes, de mots. Bon, c'est juste une diversion. Je pense que il serait beaucoup plus judicieux de poursuivre d'abord ces gens et que cela puisse être médiatisé, qu'on sache qui a fait quoi, qui a détourné et qu'est-ce qu'on a fait de lui. À ce moment-là, si on peut changer, on saura pourquoi on a changé. Mais ça, c'est juste une diversion.
Alors, jusqu'à il y a d'autres observateurs qui, en fait, expriment leurs inquiétudes dans le sens que, en tout cas, sur le plan mondial, on a senti quand même de moins en moins par rapport à la crise financière qu'a connue le monde. Et cela a même marqué la fin du modèle des banques d'investissement à ces jours. Mais lever cette option par les gouvernements congolais, c'est comme si aller vers, disons, quelque chose qui n'existait pas et qui n'a même plus d'appui sur le plan financier pour pouvoir aider le pays à aller de l'avant.
Bon, moi, je trouve que notre pays, le gouvernement de notre pays, ils font leurs actions par effet erreur. Ils dirigent à vue. Bon, ils essaient, quand ça va pas, ils recommencent. Il n'y a pas des gens qui poussent un peu loin le raisonnement. Nous allons dans d'autres pays, ce n'est pas ce qui s'est fait. Moi, je pense, je l'ai dit d'ailleurs, ce qui est beaucoup plus nécessaire, ça sera bannir l'impunité dans notre pays et faire le suivi de ce qu'on est en train de faire. Il y a des lois, il y a des transformations, nous avons de très jolies lois, de très bonnes lois, mais il n'y a pas de suivi. Il y a de l'impunité qui bat son plein dans tout ce qu'on pourra proposer. Bon, je ne vois pas d'issue.
Merci beaucoup, Rishka, d'avoir appelé de Kinshasa. Justin, vous êtes à Ouvira. Bonjour, Justin.
Oui, bonjour.
Vous avez la parole, Justin.
Oui, vraiment, la mesure où cette décision, elle est la bonne, mais nous avons toujours vu les cas en RDC. Toujours on prend les décisions, mais ça ne change rien. Et vous allez comprendre avec moi que les gens ont détourné de l'argent, mais comme ils sont du parti au pouvoir, jamais on ne peut pas les dire de retourner cet argent. Et alors, nous devons aller où? Et si on changeait, on arrivera en changement mille fois, mais on trouvera aucun résultat pour le développement de ce pays. Alors, il serait mieux que les dirigeants de ce pays puissent dire d'abord, après ceux-là qui ont détourné, de remettre l'argent, et puis changer après. Sinon, c'est peut-être un partage de gâteaux qu'ils sont en train de faire pour les gens de la majorité. Quelqu'un qui a voulu l'argent, vous le voyez, il circule librement, et vous ne dites même pas de retourner cet argent. Alors, nous, la population, on est en train de souffrir pendant que les gens sont en train de s'enrichir eux-mêmes. Ça, c'est une politique de pas de l'esprit.
Oui, alors Justin, parce que vous avez suivi votre prédécesseur qui a parlé de discuter aujourd'hui pour changer la raison sociale de cette entreprise pour qu'elle puisse se transformer en banque d'investissement. Et aujourd'hui, nous l'avons dit également par rapport à l'actualité, au fait de la crise financière mondiale qui marque également la fin du modèle des banques d'investissement dans certains sous d'autres cieux. Alors aujourd'hui, nous nous tendre vers ces modèles, n'est-ce pas là, c'est peut-être faire de l'économie archaïque.
Oui, M. Gilles, malgré qu'on fait ce changement-là, surtout la SPI pour la banque de l'industrie. Mais oui, mais l'argent qui a été détourné, on le retourne d'abord. Ça, c'est un bien public.
Voilà, donc vous souhaitez, comme votre prédécesseur, qu'on puisse d'abord éviter cette diversion. Il y a des cas de détournement des prêts d'investissement du FPI accordés aux promoteurs dont les impayés des remboursements ont été évalués par rapport à l'enquête menée par les honorables députés à plus de 140 millions de dollars américains. Cet argent, une fois récupéré, ça pourrait aider tant soit peu l'entreprise à se relancer les activités. Donc je crois que c'est à ce niveau-là qu'on pouvait travailler. 081-890-6315 pour votre intervention en direct. Et si vous nous rejoignez, donc pensez également à déposer vos commentaires sur notre page Facebook.
Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces à 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour des provinces, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Merci beaucoup, merci à vous tous qui nous avez rejoints. Donc, dans cette émission, nous avons dans ce studio Michel Somoy, analyste économique. Michel, vous êtes avec nous. Bonjour Michel. Voilà, donc c'est déjà, j'ai dit tout à l'heure, les gouvernements congolais a décidé de la transformation du fonds de promotion de l'industrie en banque d'investissement industriel. Alors cette décision est l'une des 28 mesures urgentes du gouvernement publiées le 27 janvier dernier pour redresser l'économie congolaise. Alors comme banque de financement, l'FPI devra proposer désormais ses services, notamment ses services exclusivement aux grandes entreprises, aux institutions financières et aux institutions publiques. Certains observateurs estiment que cette décision est très bonne au regard du cas des détournements des fonds enregistrés Notre opinion pense plutôt que la mise en route de cette décision de la liquidation à la transformation aura un impact sur l'économie congolaise. Est-ce que ces préoccupations ou encore ces inquiétudes sont fondées?
Si pour répondre au mieux à votre question, je crois qu'il faudrait au préalable donner un certain nombre de précisions qui sont d'ordre sémantique. Parce que ne pas nommer correctement les choses, disait Albert Camus, en ajoute au malheur du monde. Le simple fait de changer d'appellation, passer du fonds de promotion d'industrie à banque d'investissements industriels, ne signifie pas grand-chose s'il ne s'agit que de l'appellation. Le tout se résume dans la mission que l'on donne à la nouvelle structure. Il faudrait dire d'entrée de jeu que on convient de n'appeler banque que les institutions de dépôt, c'est-à-dire les institutions qui reçoivent les dépôts des ménages, des entreprises, qui émettent en contrepartie de ces dépôts, qui doivent ouvrir ce qu'on appelle des comptes pertes, des comptes d'épargne, des dépôts à terme et une autre multitude de comptes bancaires, d'une façon générale. Mais il faut donner également une autre précision. C'est que une infrastructure financière, d'abord une infrastructure financière tout court, doit toujours savoir faire la part des choses entre la finance directe et l'intermédiation financière, ou la finance intermédiaire, c'est important aussi. Parce que il y a ce qu'on appelle des activités bancaires, qui relèvent de l'intermédiation financière, et ce qu'on appelle des activités financières, qui relèvent de la finance directe. Dans un environnement où vous n'avez pas de marché financier, il faut faire attention aux appellations que nous donnons aux institutions. Parce que certaines institutions ne peuvent fonctionner viablement que dans la condition où l'infrastructure financière, aussi financière, est complète. C'est-à-dire, ne se limite pas au simple financement intermédiaire, mais comprend aussi la finance directe ou la finance des intermédiaires. Mmh. Dans le cas d'espèce, lorsque nous parlons de banques d'investissement, comme c'est le cas aujourd'hui au Congo, le terme approprié devrait être, à mon humble avis, si j'ai bien compris le gouvernement, en fait, il a tendance à créer ce qu'on appelle une banque d'affaires. C'est ça, en fait, le terme approprié. Parce que je ne comprends pas autrement la chose qu'ainsi. Je crois que le gouvernement est parti de l'appellation anglaise ou anglo-saxonne qui appelle les banques d'affaires les investment bank. Pour l'appeler ainsi, voulant voir une banque d'investissement. Alors, à ce moment-là, il y a des conséquences qu'il faut savoir tirer. Si nous sommes une banque d'affaires, il faut déjà une banque d'investissement. Il faut déjà comprendre ce que tu parles d'investissement. Bien qu'on parle d'investissement, on voit le long terme, on voit le moyen long terme, on ne voit plus vraiment le court terme. Lorsque nous parlons d'une banque d'investissement, nous sommes automatiquement en dehors du système de finances. Dans le système d'intermédiation financière.
Il faut qu'on tire un peu la lanterne des uns et des autres, qui ne sont pas d'ailleurs économiques, par des termes simples. Vous avez dit une banque est directement liée au dépôt des particuliers. Oui. Alors, quand il s'agit de la banque d'investissement, on sait tout de même qu'il n'y a pas de dépôt.
Il n'y a pas de dépôt.
Alors maintenant, il y aura des conséquences, sûrement.
Oui, bien sûr. D'abord, parce que je voudrais finir mon raisonnement.
Parce que le gouvernement qui doit normalement donner le capital à cette banque pour commencer, j'imagine.
Ici, c'est qu'une banque d'État. Si c'est une banque d'État, une banque publique, à ce moment-là, c'est le gouvernement qui doit le capital. Mais il faut comprendre que lorsque nous parlons d'une banque d'investissement, elle figure, je devais dire au départ, qu'il y a trois catégories d'institutions financières. Il y a les institutions de dépôt, de banque. Il y a les établissements d'épargne contractuelle, comme par exemple la Société nationale de France, comme l'INSS. Et il y a enfin les entreprises d'investissement. C'est parmi les entreprises d'investissement que l'on trouve ce qu'on appelle les banques d'affaires, ou que le gouvernement appelle la banque d'investissement. Donc ce n'est pas dans la catégorie des banques, ce n'est pas dans la catégorie de la finance intermédiaire.
Donc la première erreur, c'est une erreur sémantique. Le gouvernement devrait plutôt utiliser à la place de banque d'investissement, la banque d'affaires.
L'appellation n'importe peu.
Mais c'est
l'appellation n'importe peu, c'est la mission, le travail,
les activités
qu'on lui confère qui importe. Parce que banque d'affaires, après tout, on appelle banque d'affaires. Parce qu'au lieu d'appeler simplement une entreprise d'investissement, il y a des banques d'affaires. Ce n'est pas que des banques d'affaires, l'entreprise d'investissement. Il y a des sociétés financières, il y a beaucoup d'autres structures qui interviennent, le fonds de placement collectif, etc. Alors, quand nous parlons maintenant de la banque d'affaires, c'est que je voulais insister, c'est qu'on doit comprendre que nous ne sommes plus dans un système de financement intermédiaire. Nous sommes dans la finance des intermédiaires qui présuppose l'existence d'un marché financier dans ce pays. Pourquoi je le dis? Parce que la mission d'une banque d'affaires et d'une banque d'investissement, ce n'est pas de donner des crédits comme on le pense. Non, c'est d'aider les entreprises qui se créent à emprunter de l'argent sur le marché financier. C'est ça la mission. C'est-à-dire, il faut regarder qu'est-ce qui compose le passif, qu'est-ce qui compose l'actif d'une institution pour savoir la catégoriser. Une banque d'affaires aide les entreprises à émettre des titres d'emprunt, à émettre des obligations, à émettre des actions. Et la banque d'affaires aide cette entreprise à placer ses entreprises. C'est-à-dire, elle garantit ses titres. Et elle aide l'entreprise non seulement en garantissant, non seulement en conseillant, en orientant le secteur vers lequel il faut émettre ses titres, mais également la banque d'affaires, elle garantit le titre.
Alors, c'est une des mesures urgentes. Donc, c'est que tout est déjà mis à prêt pour que cela se fasse comme le gouvernement l'a décidé. Mais une autre opinion pense plutôt que la mise en route de cette décision, en commençant par la liquidation jusqu'à sa transformation effective, aura un impact sur l'économie congolaise. Qu'est-ce que vous pensez?
Oui, je voudrais en venir à cette question hier. Mais je voudrais. Vous savez pourquoi j'insiste sur ces erreurs?
Parce que la liquidation, ça va prendre du temps. Il faudrait qu'on désigne les liquidateurs et les temps que cela va prendre. Et tout cela, je ne sais pas, est-ce qu'il y aura vraiment un impact?
Non, je crois qu'il faut minimiser ce genre d'impact. Je voudrais le minimiser et je vais y revenir. Je sens que c'est ce qui me préoccupe le plus. Mais moi, ce n'est pas ce qui me préoccupe le plus. Ce qui me préoccupe le plus, c'est les erreurs que nous commettons à partir de la sémantique. Nous commettons beaucoup d'erreurs parce que depuis le copyright jusqu'à aujourd'hui, je ne fais cesser de dire que nous n'avons pas encore dans ce pays un cadre structuré qui puisse permettre le désengagement de l'État dans les entreprises publiques comme on l'a fait. La conséquence, elle est patente. Aujourd'hui, il y a une multitude d'entreprises publiques qui ne savent même pas apporter le moindre dividende à l'État. Regardez le rapport de reddition des comptes 2014. Vous allez vous rencontrer que plus d'une dizaine, plus d'une vingtaine d'entreprises publiques n'ont rien apporté à l'État comme dividende. Alors, à ce moment-là, est-ce qu'il faut dire que le copilote a fait un bon travail, oui ou non? Vous allez trouver des entreprises qui, même celles qui construisent des immeubles comme le GFM et autres, vous regardez la contribution au compte de l'État, dividende, zéro. Pourquoi? Parce qu'on a pris des mesures dans un environnement qui n'est pas approprié à ces mesures-là. C'est pour ça qu'il existe sur le fait que l'absence d'un marché financier dans ce pays ne permet pas la création d'une banque d'investissement. Parce que finalement, vous allez changer la vocation de cette banque, vous allez fonctionner avec une histoire qui porte un nom de ce qui n'existe pas, de ce qu'elle ne peut pas faire. C'est important de le savoir. Donc, non seulement on va participer pour assister à la liquidation du FPI, qui fonctionne comme il fonctionne, et le temps que ça va prendre, comme vous le dites, bon, effectivement, on doit passer maintenant dans le temps de réalisation dans l'appurement du...
Pour rappel, quel est le statut du FPI à ces jours? C'est une entreprise commerciale, une entreprise publique, avec commission dans le temps, selon l'esprit et la lettre de l'ordonnance qui avait désigné donc l'ordonnance numéro 89/171 du 7 août 1989, pourtant création et statut de cette entreprise.
Moi, déjà dans la catégorisation que la Banque centrale a faite du FPI, la Banque centrale classe le FPI parmi les institutions financières spécialisées. C'est-à-dire le fait que la sphère à laquelle on donne une vocation précise. On la dote d'un capital donné pour accomplir une mission spécifique de l'État. Dans le cas d'espèce, c'était assurer la promotion de l'industrie
locale.
Ça, c'est l'État congolais qui se dote d'un instrument pour exécuter sa politique financière dans le pays. C'est comme la société, l'institut de financement et de développement, c'est la même chose, dans la même catégorie de financiers spécialisés, créés par l'État comme des instruments d'appui à la politique économique de l'État. Bon, on ne peut pas reprocher ça à l'État. De toute façon, ce n'est pas en transformant le pays en banque que cela se fait. si la mission reste la même, c'est-à-dire le financement de l'industrie, au lieu de la promotion de l'industrie, on parle du financement de l'industrie, c'est tout à fait la même chose. La seule différence, c'est quoi? C'est que, compte tenu des capitaux existants pour le financement à moyen et long terme, parce que c'est ça la banque d'investissement, c'est une banque qui s'engage dans le moyen et long terme. Et pour s'engager dans le moyen et long terme, ça vous demande un volume de capital très important, c'est-à-dire des montants de crédit conséquents. On ne peut plus donner des petits crédits aux opérateurs économiques, alors que dans le temps, on pouvait même promouvoir l'artisanat. On pouvait prendre les artisans, les mettre ensemble et puis en assurer la promotion pour qu'ils deviennent, qu'on a les marges des industries, des petites industries qui peuvent assurer un certain niveau de transformation économique dans notre pays.
Voilà, on va venir à vous, Michel Sommouet, le temps de repasser de l'autre côté du standard, Maître Machaka et Abdoubassi, Olivier Akikuit et Kassamba Abouya. Maître Machaka, bonjour.
Bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capitale.
Vous avez la parole, Maître Machaka.
Merci de m'avoir accordé la parole, M. JR. Moi, je voulais d'abord savoir quelles sont les raisons qui ont poussé notre gouvernement à changer les FPI d'une société à une banque. Et leur bilan, puisque pour changer quelque chose ou bien changer les structures, on doit d'abord faire le bilan. Voir que ce qu'on a fait, et nous avons évolué, et ça nous pousse à aller de l'avant, à changer des structures. Puisqu'on ne peut pas seulement changer de structure, ça nous donnait d'abord le bilan des FPI comme société, puisqu'on ne peut pas directement quitter des sociétés à une banque, sans d'abord nous donner le bilan qu'ils ont fait, et les raisons qui nous ont poussé à faire quoi? À changer la structure de l'FPI. Ça, c'est ma première préoccupation. Et deuxièmement, M. JR, puisque vous savez aujourd'hui, notre gouvernement, au lieu d'abord de songer à créer une autre entreprise ou bien notre structure qui pouvait relever même des petits commerçants qui en souffrent aujourd'hui, mais ils cherchent toujours à changer l'ancienne structure à une nouvelle structure sans donner des raisons valables. Qu'en est-il maintenant de la situation? Parce que nous savons qu'il y a certaines personnes et certaines entreprises qui doivent à l'FPI. Est-ce que ce n'est pas les manœuvres que notre gouvernement cherche à cafouiller toutes ces dettes-là, puisque eux aussi, il y a parmi eux, certaines personnes qui s'étaient endettées au niveau de l'FPI, maintenant ils cherchent à camoufler ça pour effacer les dettes là, publiques qui doivent, les montants qui doivent restituer à notre gouvernement, messager.
Merci beaucoup, Maître Machaka. Pour vous, vous révélez comme vos prédécesseurs, certains de vos prédécesseurs qui ont parlé de cette diversion, parce que nous avons le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur la gestion du fonds de promotion de l'industrie RPI, dont il y a certains membres du gouvernement et même des anciens membres du gouvernement qui ont reçu des financements auprès de RPI, aujourd'hui, qui n'ont jamais remboursé. Alors voilà, donc pour vous, vous estimez que ça pourrait constituer quand même une diversion pour en fait taire ces rapports de la commission et afin d'éviter des sanctions qui pourraient en fait tomber. Merci beaucoup, Maître Machaka. Olivier, vous êtes à Kikwit. Bonjour, Olivier.
Merci, monsieur.
Olivier, vous êtes à Kikwit. Bonjour, Olivier. Bienvenue dans Parole des Jeunes.
Oui, voilà. Bonjour, JR. Bonjour à Michel Sommouet. J'ai pitié de lui et de tous les Congolais parce que vraiment, à l'entendre parler, nous sommes encore sur une voie sans issue. Et j'ai très mal au nom de toute la République parce que ce n'est pas la première fois que nous allons sur une voie sans issue et malheureusement, nous laissons faire les choses. Alors, la question que je me pose est la suivante. Pourquoi nous devons toujours laisser ce gouvernement aller sur de... En fait, aller dans des cubes de ça, ce n'est pas normal. Alors, les exemples, il y en a beaucoup depuis la nomination des vice, en fait, des gouverneurs ou des
commissaires.
Il y a beaucoup d'exemples, mais voilà. Moi, je crois qu'on ne doit pas aller par quatre chemins. Les choses sont claires. Ici, il s'agit d'organiser officiellement des détournements. Nous devons dénoncer les malversations financières organisées officiellement. Ce n'est pas normal, JR. Le FPI, il n'y a pas longtemps, on a déploré les détournements et on a même dit que la plupart des personnes qui avaient emprunté, c'était des officiels. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas remboursé. Et on va les laisser changer de nom comme ça, comme s'il n'y avait pas de parlement, comme s'il y avait... Il y a eu le conseil économique social, on en a parlé l'année passée. Et quel est le travail de ce conseil consultatif? S'ils ne peuvent pas, nous dire que ça, c'est une voie sans issue. Quel est le rôle de ce conseil? Alors, je pense que quelque chose à faire. Nous devons prendre position, aussi bien au niveau des institutions officielles qu'au niveau de la population. Il faut qu'on arrive à démontrer que telle chose est inutile et n'apportera rien à la République. Parce que au moment où nous sommes en train de pleurer une crise financière qui ne nous permet pas d'organiser les élections, moi je ne pense pas qu'on puisse perdre le temps à aller créer des choses. Même si M. Michel Sombre dit que la liquidation, c'est, on peut minimiser ça, moi je pense que c'est, on a connu beaucoup de liquidations dans ce pays, et ça toujours est un processus budgétivore. Il faut liquider, il faut payer le liquidateur, il faut le trouver d'abord, il faut le payer, les adapter des sorties, c'est ceci, c'est là. Ça, c'est toutes les choses qu'on organise très très facilement parce qu'on se paye entre soi. On se donne l'argent, ça quitte la main des X, ça va chez X, ils se connaissent. Donc, pour finir, JR, je pense que c'est vraiment la façon la plus officielle de continuer à boucher l'argent de l'État sans dans l'impunité de la République. Donc voilà ce que je peux dire.
Merci beaucoup Olivier de nous avoir d'ailleurs soufflé un sujet que nous pourrons peut-être aborder très prochainement, une année après, qu'est devenu le Conseil économique, qui a d'ailleurs ce pouvoir consultatif de pouvoir nous orienter et faire des choses, donc pour faire des observations par rapport à ce genre de questions, ce genre de débats qui sont soulevés de manière citoyenne dans nos émissions. Et puis, deuxième aspect des choses, vous êtes en fait préoccupé de ce processus de liquidation qui a toujours été de plus en plus budgétivore dans notre pays. Ça pourrait, comme nous l'avons dit, avoir un impact aussi sur l'économie de notre pays. Merci beaucoup, Olivier, d'avoir appelé les Kikuit. Kassamba, vous êtes à Bounia. Bonjour, Kassamba.
Bonjour, M. Gilles. Bonjour, M. Michel Somoué. Vraiment, ce qui m'étonne, on ne sait pas tirer de leçons à partir du passé. Copilette a créé ses moribonds et ses cadavres. Toutes les sociétés avaient tiré les gestionnaires de Copilette. Toutes ces sociétés sont presque par terre. Et nous avons, parmi les institutions financières, nous avons la Cadeco et autres, qui sont aussi moribondes. Et on veut nous créer encore une chose. Pourquoi tout cela? C'est la question de savoir. Quand le FPI n'avait pas de problème de 140 millions, regardez, ça c'était bien, ça s'est passé très bien. Mais maintenant, le problème de 140 millions, ici, on commence à chercher à nous divertir, pour la diversion, comme on dit, mec, très essentiel. Pas très loin de Alaba Gombe, nous avons participé, de Bénéfice Moribond. En fait, on a ressuscité les anciennes sociétés d'abord. L'argent qu'on va donner au FPI. Pourquoi ne pas donner à des sociétés qui sont devenues moribondes, comme la Sofimo chez moi ici en Ituri? Beaucoup de sociétés sont parfaites.
Oui.
On ne peut pas.
Oui, Kassamba. Oui, Kassamba.
Pour nous
appuyer. Oui, Kassamba. Oui, Kassamba. Monsieur Kassamba, s'il vous plaît, vous venez de suivre notre invité tout à l'heure qui nous a fait une réflexion dans le sens qu'aujourd'hui, si c'est une banque, s'il s'agit donc d'une banque d'investissement qui sera sous la responsabilité de l'État congolais, donc c'est l'État qui va qui va financer, qui va donner le capital. Mais dans le cas contraire, si c'est privé, je crois qu'on aura besoin de d'autres apports extérieurs ou encore des actionnaires qui pourront peut-être apporter quelque chose, j'imagine. Bon, je crois qu'on va revenir avec Michel Sommel là-dessus. Donc, il s'agit notamment d'une banque de l'État, donc c'est l'État qui va apporter le capital.
Merci, M. Gilles. Mais il y a une chose. Nous avons constaté que l'État congolais est un très mauvais gestionnaire. Une chose publique. Non, tout le monde le sait. L'État s'occupe d'autres choses. Les affaires.
Bon voilà, vous parlez des mauvais gestionnaires, mais nous avons tous suivi les points de presse du Premier ministre hier, évaluant le bilan du gouvernement pour cette année 2014-2015, et jusque-là tout est positif, il n'y a rien de démitigé, hein, comme le pensent les communs des mortels. Merci beaucoup, Kassamba, d'avoir appelé. Nous recevons Emery Okundji qui nous a rejoint dans ce débat, honorable Emery Okundji, député national. Vous êtes avec nous?
Oui, je suis là.
Voilà, honorable, c'est vrai, vous êtes député national. Est-ce que dans une brève explication, vous pouvez peut-être nous revenir un peu sur l'enquête qui a été menée par vos collègues députés par rapport au FPI et aussi commenter un peu la décision du gouvernement par rapport à ces mesures urgentes.
Eh bien, merci pour la question. Vous savez que nous avons une mission de légiférer et de contrôler. Et c'est dans le cadre de ce contrôle qu'un collègue a fait une motion à l'Assemblée nationale demandant qu'il y ait, qu'on interpelle le DG de FPI. Parce qu'il y avait des présomptions de malversation financière, des détournements et de mauvaise gestion. C'est dans ce cadre que la plénière de l'Assemblée nationale a accédé à la demande de notre collègue, mettant sur pied une commission d'enquête parlementaire pour recueillir les informations les plus amples sur cette question spécifique. Et la commission a fait son travail. La commission a déposé son rapport au bureau de l'Assemblée nationale. Le rapport a été distribué à tous les députés et nous n'avons pas eu le temps d'en débattre. Et donc, nous allons revenir sur cette question au mois de mars. Mais en liminaire, qu'avions-nous constaté? Eh bien, c'est le détournement monstrueux de l'argent du contribuable congolais. On a dû remarquer que des gens, sur base de faux dossiers, ont reçu du FPI et des millions de dollars. Des millions et des millions de dollars. On a vu que certains membres du gouvernement ont reçu, sur base de faux dossiers, des millions, des centaines de dollars, des centaines de milliers de dollars américains. En un mot, il y a eu détournement de l'argent du contribuable congolais, environnant 140 millions de dollars américains. On a dû remarquer une mauvaise gestion avérée de la part du comité de gestion du DG lui-même. Nous avons toutes les preuves et nous n'avions pas eu le temps d'en débattre, nous allons revenir là-dessus. Et donc, le constat est amer chez FPI. Et donc, nous devons mettre fin à cet état de choses. C'est-à-dire, il faudrait sanctionner. Si cela n'est pas un mode de gestion qu'on a opté pour la République, eh bien, il faut prêcher par l'exemple, il faut sanctionner.
Voilà,
et donc, vous me demandez de commenter la décision du gouvernement.
Oui, allez-y.
Vous savez, le gouvernement gère la République au quotidien, libre à lui de choisir toutes les options bénéfiques pour la République. Mais j'ose croire et j'ose espérer que cette option choisie en ce qui concerne les pays n'est pas une option pour cacher le mal, pour encourager le mal, pour protéger les détourneurs de l'argent de l'État congolais, de l'argent du contribuable congolais. Pourquoi? Puisque il faudrait que nous puissions arriver jusqu'au bout du processus qui est déjà déclenché à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire arriver à débattre de ces rapports de commission d'enquête parlementaire, prendre des mesures qui s'imposent, faire des recommandations au gouvernement et que le gouvernement les applique. Dans ces détournements, ceux-là qui sont au soi-même des prises de décision. Donc, ils risquent de trouver là un moyen, un raccourci pour, en tout cas, se dédouaner de cet état de choses, de gestion chaotique du fonds de promotion de l'industrie.
Oui, honorable Ebéry Okundji, c'est vrai que dans les coulisses, selon les informations de notre possession, on aurait même appris que, en fait, le bureau de l'Assemblée nationale ne voulait pas que cette question soit débattue, en tout cas, qu'elle puisse être placée sur la place publique. Et même certains membres de l'institution présidente de la République n'en voulaient pas. Est-ce que vous pensez on sait qu'à la rentrée parlementaire prochaine, au mois de mars, cette question sera débattue, parce que devant moi, j'ai ces rapports, et même au point 3, les recommandations de la commission, nulle part l'enquête ou les rapports fait état de la transformation des entreprises du point 1 au point 7 des recommandations. Donc là, il s'agit de diligenter un audit externe au FPI afin d'établir les responsabilités, procéder au recouvrement forcé des impayés du portefeuille en force, poursuivre en justice les promoteurs insolvables, appliquer les dispositions légales et réglementaires relatives à la transformation des entreprises publiques, dépolitiser et rationaliser les conditions d'octroi des crédits et des subventions, 6. Réqualifier les conditions d'octroi des subventions, et 7. Examiner au cas par cas les dossiers de licenciement des membres du personnel. Alors, bref, maintenant, est-ce que vous donnez raison à ceux qui pensent qu'il s'agit d'une diversion, qu'on veut protéger les officiels qui sont cités dans ces rapports?
Non, mon cher ami, ce n'est pas une diversion. D'abord, dire que l'Assemblée, le bureau de l'Assemblée a voulu cacher, eh bien, écoutez, il est du devoir de tout député national d'y veiller, c'est notre travail, je ne peux pas assumer cela. Mais dire que c'est une diversion, non, mon cher ami, vous savez, lorsqu'un rapport est fait, ce n'est pas pour rien que l'on programme un débat en plénière de l'Assemblée nationale. Et vous savez que la plénière, c'est l'organe suprême de l'institution. Et donc, la plénière a ce pouvoir de remettre en cause un rapport, de l'amender ou de le renforcer comme elle l'attend. Et donc, dire que c'est une diversion, non, non, je ne crois pas à ça. Mmh. Attendez, mon cher ami, que nous revenions à session ordinaire de mars, et nous allons y veiller, puisqu'il s'agit de détournement de l'argent du contribuable congolais. Et nous allons y veiller pour que cette question figure parmi les priorités du contrôle parlementaire.
Voilà. Alors,
enfin, que nous puissions en débattre et amender, puisque moi qui vous parle, j'ai même certains éléments dont je ne trouve pas dans les rapports. D'accord. Et donc, c'est à cette occasion que j'ai amendé ces rapports pour renforcer encore le travail qui a été abattu par...
Voilà, une dernière préoccupation, honorable, oui. À en croire le propos du Premier ministre sur le montant des détournements dans son ensemble. Si nous nous référons au rapport ou encore à la plainte du Conseil spécial du président de la République en matière de lutte contre la corruption et les détournements, le Premier ministre a déclaré que ce montant est fabuleux, mais sans fondement.
Bon, au moment où je vous parle, je n'ai pas tous les éléments à ma possession pour affirmer ou confirmer cela. Mais une chose est vraie, est que le détournement dans notre pays aujourd'hui fait partie de la gestion des affaires de l'État. Tout simplement parce qu'il y a impunité. Il y a même des situations qui échappent totalement au Premier ministre. Vous avez des gens qui se croient de soutenir, je ne sais pas par qui, et qui n'obéissent même pas au Premier ministre. Et donc, c'est cet état des choses qui fait que les détournements aujourd'hui dans notre pays deviennent un mode de gestion, un mode de gouvernance, de finances publiques. C'est donc nous ne pouvons pas accepter, puisque si nous voulons relever les défis dans notre pays, les défis sociaux surtout, les sociaux de base, nous devons faire en sorte que l'argent de l'État soit canalisé vers la caisse du trésor public, afin que cela soit au service de toutes les Congolaises et de tous les Congolais.
Merci beaucoup, honorable Méry Okunji, de nous avoir rejoint dans ce débat. Nous allons prendre tout à l'heure donc le professeur Ndala, le professeur Ndala qui est à Colombie. Professeur Ndala, bonjour.
Alors, merci pour la parole, Pierrot. Je voudrais d'emblée dire que c'est quand même curieux, parce que c'est allé trop vite pendant qu'il y a un rapport qui court, dont les résultats n'ont pas encore été publiés. Voilà que l'on nous présente une nouvelle structure, donc on continue la première structure. Moi, je veux simplement...
Oui, professeur, il faut déjà souligner que le rapport est déjà publié, les honorables députés, en tout cas dans son ensemble, ils ont déjà ces rapports, et nous, au niveau de la presse, nous les avons également, j'ai avec moi les rapports sur la table, et comme vous l'avez dit, au moment où cela n'a pas été encore débattu au niveau du Parlement, le gouvernement prend la décision parmi les 28 mesures urgentes. Elle a pris celle donc de pouvoir transformer le FPI d'une entreprise publique à une banque d'investissement industriel.
Ah oui, mais moi je dis que ce qui a été fait le plus correct ce serait, nous l'avons critiqué, il y a eu des tares dans le fonctionnement du FPI. On aurait pu améliorer la structure, c'est-à-dire voir, entre autres, ce que nous avons dit, il y avait un problème de contrôle, un problème de suivi dans la manière de poids de fonds, dans la manière de choix des bénéficiaires de fonds. Il fallait beaucoup plus améliorer cette structure. S'il y avait un problème d'hommes, on devait remplacer ces hommes carrément. Si c'est un problème de tête, on devait améliorer le secteur, redynamiser les FCI au lieu de transmettre cela à une nouvelle structure. Là encore, je vais dire, ça ne pouvait pas gêner notre pays, notre gouvernement, de garder les FCI, l'améliorer, le redynamiser et entre-temps, penser à créer une nouvelle banque d'investissement. Ça ne pouvait pas poser de problème. Moi, je pense que l'on devait faire cela. Si on ne l'a pas fait, il y a un problème, tout le monde l'a dit avant moi, on semble, cela semble montrer d'emblée qu'il y a des sérieux problèmes pour cacher les réalités. Je reviens toujours sur le mot de tous les jours. On doit, dans ce pays, dans la gestion, penser à la rédévabilité. On doit expliquer au peuple qu'est-ce que le pays a fait, à quel niveau il en est aujourd'hui, et l'améliorer, et aujourd'hui motiver aussi pourquoi on veut réellement créer cette nouvelle banque d'investissement. Je pense que les deux peuvent continuer à fonctionner ensemble que de chercher à, je sais pas, à camoufler, passez-moi le terme, les difficultés des institutions du fonctionnement du premier, de la première structure en une nouvelle structure dont nous ne savons pas ici. Et là encore, permettez-moi de terminer par là. On ne sera pas surpris, comme d'habitude, de voir que les mêmes animateurs de SPI vont être transférés à la nouvelle banque et avec quel résultat. Voilà ma crainte.
Merci beaucoup, professeur Dalla, d'avoir appelé du Colonie 081-890-7315 si vous voulez participer à ces débats autour de la transformation des SPI à une banque d'investissement industriel.
Parole aux auditeurs.
Merci encore de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre cadre d'échange et partage citoyen. Michel Somoué, vous êtes analyste économique. C'est vrai, vous avez suivi cette série des auditeurs, cette deuxième série. Comment commentez-vous les interventions des uns et des autres? Voilà, et puis bon, on sait tout de même qu'il s'est dégagé pas mal de réflexions dans le sens, comme je l'ai dit tantôt, la liquidation qui était un processus budgétivore a évoqué Olivier, et puis où allait-on avec les conseils économiques et sociaux, parce qu'en principe il devait être aussi en lieu dans ce genre d'affaires. Voilà, les orientations, les observations. Alors, toutes ces préoccupations, comment répondez-vous aux uns aux autres?
D'abord, Pierre, je voudrais dire que la plus grosse préoccupation que les gens ici, c'est que les gens se disent que ce n'est pas une diversion. Le fait qu'il y a eu des détournements, il y a eu des gens qui ont indûment emprunté de l'argent auprès du FPI, etc. Donc on veut rester en avant. Par rapport à cette question, je voudrais que les choses soient précisées. Dans toutes les activités d'emprunt et de prêt, il y a des risques. Parmi les risques, il y a notamment le risque qu'on appelle la symétrie, l'antisélection. L'antisélection qui relève de la symétrie de l'information. C'est-à-dire que l'individu qui vient emprunter de l'argent auprès d'une banque ou d'une institution financière quelconque ne dit pas toujours la vérité, ne dit pas toujours ce qu'il a dans le plus profond de son cœur. Il peut venir raconter au banquier une histoire tout à fait fausse, alors que l'argent, il voudrait le destiner à toute autre chose. On appelle ça, justement, la symétrie de l'information. Je crois que le FPI a été largement victime de cette symétrie de l'information, pour le cas où il n'a pas été le même complaisant. Parce que l'une des spécialités des banques, c'est justement cette capacité-là à pouvoir éviter ce risque. L'intermédiation financière, justement, a de l'importance il est préféré à la finance directe, justement parce que les banques sont des institutions outillées pour élaguer ce risque d'antisélection, ce risque d'asymétrie de l'information. Le FPI ne devrait pas, logiquement, s'il avait une expertise accentuée et voulue, tomber jusqu'à un tel niveau de millions de dollars qui sont aujourd'hui irrécupérables. Ce sont des créances du FPI, mais des créances qui deviennent des créances douteuses. Que le pays n'a pas la possibilité de, probablement la capacité de récupérer. Mais il n'est pas dit que pour autant, on ne doit pas liquider le FPI. Non, on peut liquider le FPI pour créer une banque d'investissement lorsqu'on se rend compte que, sauf que la mission du FPI n'a pas atteint sa mission, il faut le liquider ou oublier, sauf qu'on s'est rendu compte que le niveau de fonctionnement du FPI n'est plus compatible avec les besoins exprimés par l'économie qui seraient ceux d'une véritable banque d'investissement. Mais là, encore une fois, je reviens à ce que je disais avant. Et quand on parle d'une banque d'investissement, je dis bien qu'on a choisi l'appellation anglo-saxonne Investment Bank. En bon français, on appelle ça la banque d'affaires. Quand on choisit le compte de l'option pour la banque d'affaires, il faut faire attention à ce que l'on est en train de créer. Parce qu'il ne faut pas créer un monstre. Vous n'allez quand même pas, je peux dire, vous n'allez quand même pas prendre un poisson pour le mettre sur la terre. Parce qu'il ne saura pas nager, ce n'est pas son domaine. Vous n'allez pas prendre une banque d'investissement pour la créer dans l'imbroglio du système bancaire que nous avons aujourd'hui.
Comme c'est le cas avec la banque de crédit agricole.
Exactement. Mm-hmm. Et c'est pour ça qu'une chose comme la société ne décolle jamais. Là, le pomme de Francis, le pomme de Francis, a eu beaucoup de difficultés parce qu'il ne sait pas se définir exactement par rapport à la nature de notre système bancaire. Parce qu'une banque d'investissement ne va pas relever de l'autorité de régulation de la Banque centrale du Congo. Ce n'est pas possible. La Banque centrale du Congo conçoit des politiques monétaires qui est par nature une politique de court terme. La banque d'investissement, elle, se situe dans le cadre de la finance pure. J'ai dit au départ, il y a une différence entre les activités bancaires et les activités financières, c'est-à-dire basées sur les titres. Une banque d'investissement, c'est une banque qui fonctionne avec des actions, des obligations, avec qui sont des titres à long terme, des titres de capital, parce que c'est un capital d'emprunt. Voilà qui compose le passif de la banque d'investissement. Ce ne sont pas les dépôts des clients, ce n'est pas de l'argent à court terme. Donc aujourd'hui, dans notre environnement congolais, nous n'avons pas encore mis en place cette structure, ce marché financier qui permet justement les échanges, qui permet la circulation, la fluidité, la mobilité des titres. Nous n'avons pas encore un marché des titres. Il faut y arriver. Mais je sais, par histoire, je connais, j'ai été un tout petit peu au courant de certaines situations. Je sais que depuis 1996, nous sommes engagés dans la nécessité de 1996, avec la nécessité d'assurer une transformation financière dans notre pays. Ce qui nous manque, c'est l'expertise pour y parvenir jusqu'à aujourd'hui. Le programme de marché financier dont je parle, là aujourd'hui, pour permettre justement à une banque d'investissement de fonctionner et d'opérer dans ce pays, il est sur les lèvres du Premier ministre actuel, Matata. Il en parle tous les jours aussi. Ils ont besoin de créer le marché financier. Il bute à des difficultés. Vous avez entendu dire qu'il veut émettre des titres d'emprunt de 2 milliards de dollars sur le marché international. Mais le titre d'emprunt, il va le mettre.
Avec le nom de quelle banque, je ne sais pas.
Vous allez mettre le titre d'emprunt pour. Bien sûr qu'il sera libéré en quelle monnaie. Est-ce que vous allez le mettre sur le marché, sur l'euro marché ou sur le marché étranger? Ce sont des questions spécifiques que le gouvernement ne se pose pas parce que ça appelle un degré de technicité assez accentué. Voilà pourquoi nous créons des structures par mimétisme. Par simple mimétisme, le copier-coller. Et on prend des trucs, on va les mettre et ça ne va pas fonctionner. On va aboutir aux mêmes difficultés, aux mêmes questions, comme un téléspectateur l'a dit, je crois que c'était M. Kassambachan, le plus bonheur. Le Conseil économique et social d'hier, sur ce plateau de radio au Capi, ils avaient dit que ce truc-là était une fantaisie pure et simple parce qu'il ne peut pas donner un conseil qui soit contraire à celui donné par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Le Conseil économique et social ne pèse pas. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que le conseiller du gouvernement, le conseiller de l'État congolais, c'est même pas, je vais même dire le maître de ce pays, c'est le Fonds monétaire, c'est la Banque mondiale. quelle autre structure de conseil vous allez créer lorsque vous avez déjà le fonds monétaire de la Banque mondiale qui vous dit que c'est que vous
avez une structure de trois. On va se mettre en profondeur, on va voir la loi, créant cette structure, et puis bon, on va passer à plein fin à toutes ces dispositions pour l'instant, à savoir un peu plus. Mais les gens peut-être devraient passer de l'autre côté des standards, tout en rappelant à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre, qui peuvent également participer à cette émission, qui parle de fonds de promotion de l'industrie, qui sera désormais transformé en banque d'investissement industriel. 081-890-6315 pour votre intervention.
Parole aux auditeurs.
Monsieur Moutipaï, vous êtes à Matadi, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour.
Quel est votre avis?
Bon, je voudrais dire ceci. Le fonds de promotion de l'industrie avait parmi ses sources de financement le dédouanement. Donc, c'est-à-dire que chaque personne qui importait une marchandise devait payer, si c'est une taxe ou un impôt, je ne sais pas comment ils définissaient ça, devait payer quelque chose au fonds de promotion de l'industrie. Mais aujourd'hui que le fonds de promotion devient une banque, est-ce qu'on va continuer à fonctionner encore sur le dos de la population cet argent ou bien ils vont cesser? Donc, en prenant cet argent sur la population, donc la population devenait par le même fait aujourd'hui que ça devient une banque, ça devient, il devait quand même donner quelque chose à ceux-là qui donnaient de l'argent. Mais nous, dans notre entendement, quand on a créé le fonds de promotion de l'industrie, on a pensé que l'État allait créer des industries, parce qu'on en manque énormément ici dans notre pays, devait, avec cet argent que l'on prenait, devait créer des industries pour donner quand même de l'emploi à la population. Mais rien de tel n'a été fait. Nous avons appris que tout cet argent-là que l'on prenait devait servir aux politiciens. Donc, eux qui sont bien payés, ils devaient aller là-bas maintenant prendre l'argent puisque c'est le leur. Ils devaient prendre ça, se partager ça, sans crainte d'être punis. Comme l'impunité est devenue la règle chez nous. Bon, mais aujourd'hui, est-ce qu'ils vont continuer à prendre cet argent-là ou...
Votre correspondant vous a mis en attente.
Voilà, merci, Moutipaï. On va prendre Félicien qui est à Kinshasa. Félicien, bonjour. Félicien, vous êtes avec nous? Voilà, on a des petits soucis avec la ligne de Félicien à Kingolo. À Kinshasa, à Kananga, on va prendre Maître Adrien. Maître Adrien, bonjour.
Oui, bonjour, Jean Rougembo. Bonjour à Michel Somouin.
Vous avez la parole, Maître Adrien. Qu'est-ce que vous avez comme commentaire par rapport à cette thématique?
Oui, merci, Jean, de la parole que vous m'accordez. Permettez-moi de saluer d'abord ce que je considère comme un cours, ce n'est pas une analyse de M. Michel Somouin. Et puis, permettez-moi de faire une petite analyse juridique, parce que sur le plan économique, Michel Somouin a été vraiment très éloquent. J'ai, je pense que sur le plan juridique, c'est comme qui dirait, le gouvernement a mis la charrue devant le bœuf. Parce que cette transformation, selon lui, de l'FPI en une banque d'investissement, je me demande, ça n'a pas du tout de sens, parce que le gouvernement devrait d'abord commencer par évaluer les objectifs assignés à l'FPI pour conclure soit en un échec, soit en une réussite et pour chercher des amendements. S'il y avait échec, le gouvernement a aussi la possibilité d'analyser les statuts de l'FPI. Si c'était une société commerciale déclarée totalement, si cette société-là en faillite, si c'était une société tout court, déclarée peut-être que la société est tombée en désuétude, pour voir maintenant comment est-ce qu'il faut analyser des types de solutions. Parce que là, je me demande de savoir de faire comment les objectifs seront le même ou ça sera comment. Donc là, c'est beaucoup de questions. Et aussi, moi, je pense qu'on ne peut pas prétendre a corrigé une erreur en commettant soi-même donc une autre erreur. Parce que moi, je considère que la manière dont on est en train de vouloir transformer l'FPI en une banque d'investissement, je considère ça, ça m'engage que c'est une erreur que le gouvernement est en train de commettre.
Maître Adria, parce que vous relevez là les aspects juridiques, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, comme l'ont dit vos prédécesseurs, que c'était un aveu d'échec du processus que le gouvernement a engagé, dans lequel s'est engagé le gouvernement depuis quelques années, sous la roulette du copyright?
En quelque sorte, oui, je confirme ce que mes prédécesseurs ont dit. C'est un aveu d'échec parce que moi je pense que la moindre des choses était d'abord de commencer par l'évaluation. Et puis je me pose la question de savoir, est-ce le gouvernement, c'est par rapport à ce que l'FPI a commis comme bourde par rapport au crédit accordé en désordre, que le gouvernement a voulu sanctionner donc l'FPI de cette manière? Si c'est ça la raison, je pense que la manière est mauvaise. L'intention peut être bonne, mais il serait mieux que le gouvernement puisse associer certains partenaires, certains experts. Parce que pourquoi dans ce pays, lorsqu'on veut entamer quelque chose, on a toujours honte de se référer aux autres, ceux-là qui ont aussi la maîtrise donc, de la chose, pour essayer de continuer aussi avec les idées, au lieu de faire celles qu'on est en train de les faire, ce n'est pas du tout propre.
Alors vous pensez comme les autres que si jamais le gouvernement maintenait cette option, il y aura un impact sur l'économie congolaise?
L'impact, oui. Il y aura certes un impact parce que lorsque nous analysons les objectifs traditionnels assignés à cette structure, donc l'FPI, vous allez prendre compte qu'elle avait des objectifs bien précis et clairs. Et jusque-là, c'est l'évaluation qui pouvait nous donner des résultats. Tels comme on ne l'a pas fait, je pense que l'impact négatif aura dans ce sens que le partenaire de l'FPI vont se retirer, vont croiser les bras, et je ne sais pas maintenant, la banque d'investissement, où est-ce qu'elle aura ce fonds-là pour investir? Et puis, lorsque je lis sur le site de la Géocapi, les modalités d'octroi de ces investissements, me laissent perplexe, parce que comment on peut cibler trois catégories, et les autres maintenant qui étaient abonnés à l'FPI vont faire quoi? Voilà,
merci.
Impacts négatifs qui auront lieu par rapport à cette transformation.
Merci beaucoup, M. Adria, d'avoir appelé et d'avoir contribué dans cette émission. Nous vous rappelons, chers auditeurs, vous qui nous rejoignez, donc, que vous pouvez également participer à ces débats en composant, bien entendu, les 081-890-63-15, et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook. Ce magazine d'échange citoyen, et merci à vous tous de participer à ces débats citoyens. Nous revenons dans ce studio avec vous, Michel Sommoy, mais il est temps de citer les deux auditeurs qui nous ont rejoints. Voilà, il y a Félicien qui était à Kinshasa et Christian à Lubumbashi. Félicien, bonjour.
Bonjour, cher. Bonjour à tous les auditeurs de Okapi et à l'invité qui est un bon analyste du côté économique, et nous le félicitons.
Voilà, le gouvernement congolais a décidé de la transformation du fonds de promotion de l'industrie FPI en banque d'investissement industriel. Quel est votre avis?
Moi, je me pose la question, pourquoi autant de tâtonnements quand il s'agit de la gestion de la chose publique, du bien commun et de tout ce qui appartient à l'État, alors que nous sommes capables de gérer nos propres entreprises, nos entreprises privées sans difficulté. Je ne peux pas comprendre que l'on puisse parler de changement des raisons sociales des FPI comme si c'était la cause. Et c'est la mission confiée au FPI qui est mauvaise et qu'il faut corriger, ou bien c'est la mauvaise gestion de cette entreprise qu'il faut corriger. Et ce sont les antivaleurs, je pense, qui retrouvent dans la gestion de toutes les entreprises et établissements publics qui est un problème auquel plutôt il faut s'attaquer. Et moi, je pense pas que nous soyons là à tâtonner 55 ans après et on n'arrive pas à avoir une gestion orthodoxe de la chose publique. Et moi, je pense que nous avons un problème. Et ce problème, c'est le problème d'hommes et c'est le problème d'éthique et de morale et des anti-valeurs que nous avons besoin de corriger, et c'est ça que nous devons combattre.
Alors,
on laisse les gens faire ce qu'ils veulent faire quand il s'agit de bien commun. Mais ces gens-là, ils ont l'air bien propres et ça marche bien chez eux. Mais quand on nomme quelqu'un quelque part, ça ne marche pas. Et tous ceux qui sont en politique, ils peuvent se servir de bien de l'État dans toute impunité. Et tout ça, on le sent, nous voyons tout, nous parlons, mais rien ne change. Et vous pensez que c'est cet attendement-là qui va nous amener à changer les choses dans ce pays pour arriver au développement et que tout le monde attend, à arriver à éradiquer la pauvreté. Mais le bien de l'État, c'est pour tout le monde. Les entreprises publiques, c'est pour l'intérêt général. Mais combien de populations sont en train de souffrir et un petit groupe se réjouit des biens publics alors que nous devions faire la répartition équitable du revenu national. Moi, je pense que nous devons nous attaquer aux causes et non aux effets. Et les causes sont les mêmes dans toutes les entreprises. Ce n'est pas seulement les problèmes des pays. Que l'impunité cesse et que on mette l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, et qu'on punisse vraiment tous ceux qui sont en train de penser que la chose publique, ça n'appartient à personne, et que c'est un bien sans maître.
Oui, M. Lucien, si nous nous référons au rapport des honorables députés par rapport à cette question, mais il est clairement dit au troisième point relatif aux recommandations de la Commission en fait, il fallait diligenter un audit externe au FPI afin d'établir les responsabilités et aussi procéder au recouvrement forcé des impayés du portefeuille en force. Troisièmement, poursuivre en justice les promoteurs insolvables et les bénéficiaires des subventions non justifiées. Donc, à ce niveau, il y a eu des recommandations très précises et aussi qui pouvaient aider l'entreprise à relancer ses activités. Mais aujourd'hui, passer du fonds de promotion à une banque d'investissement. C'est vrai, nous avons suivi même les analyses faites par notre invité tout à l'heure, parce que quand on parle d'une banque, la banque est liée directement à un dépôt, et quand il faut aller à une banque d'investissement, cela n'appelle pas les dépôts, c'est qu'il faudrait que le gouvernement puisse investir. Encore faut-il qu'une banque d'investissement qui repose sur un marché financier, nous connaissons le contexte dans lequel nous évoluons, ça pourrait être vraiment impossible. Est-ce que vous pensez aussi, comme les autres, que c'est vraiment impossible? C'est une décision qui est prise à l'arrêt.
Mais nous avons déjà eu la banque de crédit agricole dans ce pays, et vous connaissez, et ça a donné quel résultat? Moi, je vous dis que c'est un problème d'homme que nous avons dans ce pays. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous aurons toujours le même résultat. Moi, je pense pas que c'est ça qui est un problème. Le problème, ce sont des décisions que les parlementaires ont prises. Malheureusement, on prend des décisions, mais ouais, jamais on a vu l'exécution. Mais ce pays ici, il faut que les choses changent. Mais allons un peu du côté des comportements, du côté des mentalités. Laissons un peu des histoires politiques et tout ça. Quand on veut nommer les gens en tenant compte de leur appartenance politique, quand on veut utiliser le clientélisme dans la gestion de la chose publique, quand on veut utiliser le tribalisme, quel résultat voulez-vous avoir? On ne peut pas vouloir une chose de son contraire à la fois. Moi, je pense que nous avons un problème dans ce pays, et nous tous, nous devons être responsables et nous devons réfléchir.
Merci beaucoup, Félicien. Christian, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour et bienvenue dans Parole Judiciaire.
Bonjour, J.R. Merci de m'avoir accordé la parole. Je voudrais intervenir toujours sur le sujet en m'inscrivant en faux à ce que je considère comme une fuite en avant du gouvernement, parce que j'estime que il faudrait attendre que la procédure de l'Assemblée puisse se terminer avant de penser et de penser correctement la transformation de l'FPI qui besoin s'y impose. C'est-à-dire, pour moi, je prends l'exemple du FPI. Mais, normalement, même la banque d'investissement qu'on voudrait créer, elle doit avoir un objectif, et l'objectif pour moi est de booster l'économie nationale. Elle a un impact positif à l'économie nationale. Mais or, tel que ça fonctionne, je prends un exemple, moi j'ai pu essayer de contracter un prêt au FPI pour un petit projet que j'avais, mais pour qu'on te donne quelque chose, je pense que ce sont les mêmes conditions, il faudrait avoir laissé en hypothèque un bien immobilier d'une valeur de 200 à 300% du montant que vous voulez. Or, la classe moyenne ou de tous les promoteurs de PME seront en difficulté à remplir ce genre de conditions. Si on doit créer une banque d'investissement, il faudrait qu'on puisse assouplir
les conditions afin d'amener réellement un impact positif à l'économie nationale. Vous constaterez que l'actualité, avec tout le problème que l'FPI connaît, si on doit diligenter une enquête, un audit externe, je suis sûr et certain qu'on va constater que c'était du clientélisme. On a donné des crédits aux gens qui ne remplissaient pas les conditions telles que le fonds de promotion l'a déjà déterminé. Parce que j'ai eu à essayer cet exemple. Je peux vous assurer que c'est assez fastidieux. Alors, tous ceux-là qui ont eu des millions, est-ce qu'ils ont eu à laisser des gages d'une valeur de 3 millions ou de 2 millions pour celui qui chercherait à avoir 1 million? Je ne pense pas.
Merci beaucoup. Donc, merci d'avoir appelé. Merci. On va prendre Maître Likonda et Kinshasa et on va terminer avec vous, Maître Likonda.
Oui, merci beaucoup, J.R. J'ai suivi tout le monde. Et maintenant, nous devons faire beaucoup d'attention au J.R. Depuis le début de cette émission jusqu'à présent, vous qui l'a présenté ne faites que parler de la transformation des SPI en une banque. Mais nous qui intervenons et l'invité avons plutôt tendance à parler brillamment d'autres choses qui ressemblent à la thématique. Mais ici, on a parlé de la liquidation, je ne comprends pas. La transformation, c'est une opération qui permet de changer le statut juridique d'une entreprise ou d'une organisation qui existait. Ça ne donne pas lieu à une liquidation quelconque, puisque là, il n'y a pas de dissolution. On transforme simplement ce qui existait à une nouvelle conception ou appellation. Il y a d'ailleurs des exemples frappants. Quand on a transformé les entreprises publiques en sociétés commerciales, en établissements publics, est-ce qu'on a entendu parler de liquidation? Là, je sais que nous devons faire beaucoup d'attention. Et j'ai suivi l'invité, il a brillamment parlé, mais il a semblé confondre la banque d'affaires avec la banque d'investissement, il a mélangé beaucoup de choses. Certainement, les deux ne reçoivent pas les dépôts d'épargne et n'offrent pas de crédit ouvert. Mais il y a une différence entre les deux. La banque d'investissement offre ses services financiers au gouvernement, aux entreprises et même aux personnes.
Voilà, merci beaucoup, Maître Likonda. On a plus assez de temps, on va conclure avec notre invité. Merci beaucoup. Voilà, alors, Michel Somoué, de précision en conclusion.
Bien. Il y a eu beaucoup de choses, hein, qui sont très importantes, qui sont bien dites d'ailleurs aussi. Encore une fois, je minimise l'impact de la transformation de l'UFPI en banque, parce que déjà au départ, je minimise l'apport de l'UFPI dans l'économie nationale. Donc, avoir l'UFPI ou ne pas l'avoir dans ce pays, pour moi, je n'ai pas senti de grande différence. Je n'ai pas vu un grand apport de l'UFPI, parce que un intervenant l'a dit, soit c'est M. Moutoupaï. On attendait du FPI qu'il y ait eu une crise.
La promotion de l'industrie locale,
de grandir, pour intervenir dans le secteur de l'emploi et autres. Mais quand on se rend compte de ce qui se passe, les bénéficiaires de ce type de crédit, pour la plupart, vous allez vous rendre compte que le FPI a fonctionné un peu moins comme fonds de promotion de l'industrie, mais un peu plus comme fonds de promotion des individus. Donc ça peut être le FPI après tout. Mais, donc moi, je considère qu'il faut minimiser ce cas-là, absolument. Mais c'est vrai qu'on me dit, Félicien, pourquoi on tâtonne? On tâtonne. Je crois qu'on tâtonne parce que on n'a jamais pris le courage de mettre en place le cadre qui permet qu'ils répondent aux exigences de ce que l'on voudrait créer, dont on veut se doter. On tâtonne parce que nous sommes en train d'agir par mimétisme, par effet et erreur. Encore une fois, maintenant, je reviens pour terminer à M. Likonda qui me corrige. Je dis à M. Likonda, ne vous inquiétez pas, M. Likonda, je suis financier, c'est de quoi je parle, je suis banquier. Quand je vous dis que dans la catégorisation des institutions financières, il y a trois catégories. Il y a les institutions de dépôt, il y a les établissements de d'épargne contractuelle et il y a des entreprises d'investissement. Quand je dis avec précision que la banque d'investissement c'est une appellation anglo-saxonne de la banque d'affaires, messieurs, soyez rassurés, soyez tranquilles, c'est de quoi je parle. Et ce qui compte, ce qu'on regarde dans les banques, dans les différentes institutions, c'est qu'est-ce qui compose le passif, qu'est-ce qui compose la trésorerie, d'où proviennent les ressources dont se sert l'institution pour fonctionner. C'est là qu'il est important de voir quand on pense une banque d'investissement ou de promotion de l'industrie,
D'où viendront ces ressources? Ça viendra de l'État, ça viendra de l'économie. Comment elles seront mobilisées? Ça pose le problème. Encore une fois, j'estime que pour nous, comme a dit un intervenant, le gouvernement a mis la charrue devant les bœufs. Il faut d'abord assurer le cadre et nous assurer une économie efficacement
nationale. Michel Soumoué, analyste économique, merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà, il y a Hippolyte Topanga, Thierry Lavezzi et Julie Fezabogunda qui ont concouru à la production de cette émission qui vous a été coordonnée et présentée par J.F. Lukebo sous la supervision de Martin Seboujangué. On se retrouve donc demain dans un autre numéro de Parole aux auditeurs.